الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons donc commencer le deuxième cours de l'explication des Qawaid al-Arba'a, les quatre règles. Nous avons mentionné la première règle. Nous avons dit que le Cheikh, rahmatullahi alayhi, a dit que les kuffars qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont combattu, ils reconnaissaient le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le seul créateur, le seul pourvoyeur et le seul qui administre tout. Et pourtant, le fait qu'ils aient reconnu ce tawhid-là ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Pourquoi ? Car celui qui pourvoit, qui crée tout, qui est le seul créateur et qui gère tout l'univers, c'est lui qui mérite d'être adoré seul, sans rien lui associer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils vouent l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et c'est pour ça que les ulama ont dit Tawhid al-Rububiyya mustalzimun li Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire que le Tawhid dans la Seigneurie, qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, implique le Tawhid dans la divinité ou dans l'adoration. Quant au Tawhid Al-Uluhiyya mutadamminun li tawhid al-Rububiyya. C'est-à-dire que le tawhid de l'adoration, celui qui reconnaît le tawhid dans l'adoration, automatiquement il va reconnaître quoi ? Et il va unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le tawhid, dans la seigneurie. Donc celui qui dit je crois en Allah et qui ne voue pas son adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un croyant et ne fait pas partie des musulmans jusqu'à ce qu'il voue son adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que les règles se complètent les unes les autres. Et en réalité, ce livre, Al-Qawaid al-Arba'a, c'est un résumé du livre de Cheikh Rahmatullah alayhi, Kashf al-Shubuhat. Si ce n'est qu'il est très résumé et très concis. Le Cheikh Rahmatullah alayhi nous dit la deuxième règle. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle, ikhwa, c'est qu'ils disent, c'est-à-dire les mushrikis, ils disent, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Et le fait qu'ils demandent le rapprochement d'Allah réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la traduction du sens rapproché. Tandis que ceux qui adoptent des maîtres en dehors d'Allah, en dehors de lui, disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Et Allah ne les guide pas, celui qui est menteur et grand mécréant. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et le fait qu'il leur demande l'intercession réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et ya ikhwa, cette règle ici, il faut bien bidnillah, il faut rester attentif et bien la comprendre. Et comme on a dit, cette règle complète celle qui elle complète la précédente. Donc ceci est une règle grandiose qui complète la première règle. C'est-à-dire qu'on a appris dans la première règle que les polythéistes, yani auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, le bienfaiteur et qui gère tout, administre tout, et que cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et ici on peut se poser une question, s'ils reconnaissent que c'est Allah qui crée, pourvoit et qui gère tout et qui contrôle tout l'univers et qui administre tout, et que les idoles ne créent pas, ne pourvoient pas, ne donnent pas, alors pourquoi adorent-ils ces idoles? C'est une question qu'il faut se poser, si eux ils savent que c'est Allah qui crée tout, qui a tout créé, qui est le seul créateur, et que c'est lui qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort, pourquoi adorent-ils yani les saints? Pourquoi adorent-ils les pieux? Et pourquoi vouent-ils l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et la réponse de cela est dans la règle que nous allons voir maintenant. Les polythéistes, ceux qu'Allah a nommés comme tels et a jugé qu'ils seraient destinés à l'enfer éternellement, n'ont pas commis d'associationnisme, c'est-à-dire de shirk, dans Ar-Rububiyya, mais plutôt dans Al-Uluhiyya. C'est-à-dire que vous, quand vous allez maintenant chez le mushriki, mais ça c'est une choubha, c'est une ambiguïté. Quand vous allez chez lui, vous lui dites « Tiens, Akhi » ou tu lui dis « Ya Fulan » pourquoi invoques-tu l'habitant de cette tombe? Il te dit « Moi, je ne l'adore pas en dehors d'Allah. » Il te dit « Moi seulement, je me rapproche et ni par cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le prends comme intermédiaire, comme une personne qui veut arriver, par exemple, au président et il ne sait pas arriver directement au président, donc il va passer par des intermédiaires. Eux, ils font la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les mushrikines ne disaient pas que leur divinité créait, pourvoyait avec Allah, ou qu'elles apportaient le bien ou le mal, ou qu'elles géraient quoi que ce soit dans cet univers. Ils les prenaient simplement comme intercesseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Traduction du sens du verset. Et ils n'adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'ils disent? Allah dit dans le verset, qui ne peut leur nuire ni leur profiter. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que leur divinité, leur fausse divinité, ne pouvait ni leur apporter le bien, ni le mal. Mais ils les prenaient comme intercesseurs. C'est-à-dire comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre à leurs besoins. Ils leur offraient des sacrifices. Et ils faisaient des vœux pour eux. Non pas parce qu'ils croyaient que ces divinités créaient en dehors d'Allah, ou qu'elles pourvoyaient, ou qu'elles géraient l'univers, mais plutôt parce qu'ils intercédaient en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur croyance, Wallahi, allez dans le pays musulman et demandez-leur pourquoi tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire la même chose que ce que disaient les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont te dire, moi j'adore pas Sidi Foulan. Il dit, moi je le prends seulement comme intercesseur. Moi je suis un miskin, je fais des péchés. Tandis que eux, masha'Allah, ils étaient pieux. Et ils sont meilleurs que nous. Et c'est ça leur ambiguïté, je crois. Et c'est ça la croyance des polythéistes. Et il faut savoir, ça c'est une faïda que Cheikh Saleh Haïcher, il mentionne dans son explication d'Al Qawaid Al Arba. Il dit que le fondement du polythéisme dans le monde et chez les polythéistes, donc à travers toutes les catégories de polythéistes, elle repose sur deux approches principales. C'est-à-dire qu'elle se divise en deux catégories, deux sortes de polythéisme. Et ça, c'est la base. La première, c'est la première catégorie, c'est le shirk. Donc, par le fait qu'ils croyaient aux astres. Ils croyaient aux astres, c'est-à-dire ils croyaient que les astres avaient une influence sur l'univers. Et ça, c'était le cas pour le peuple d'Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam était confronté à un peuple qui adorait des idoles façonnées à l'image d'esprit d'astres. Et eux, ils croyaient que ces étoiles et ces astres avaient une influence sur l'univers. Et ils adoraient ces statues car ils croyaient que l'esprit des astres était et habitait dans ces statues-là. Alors que c'était en réalité des shayatines. Et subhanallah, il se pouvait même que certains parmi certaines de leurs idoles, de leurs statues ou autres, parlaient. Alors que c'était des shayatines. Et il se peut même, subhanallah, que ils recevaient ce qu'ils demandaient. Et subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr qui leur donnait ça, et ni pour les égarer encore plus. Et c'est ce qui les a fait tomber dans le shirk. La deuxième catégorie, c'est le polythéisme, du peuple de Nuh, alayhi salam. Et lui était basé sur la croyance, dans le fait de vouer l'adoration à qui ? Aux salihin, aux personnes pieuses, aux vertueux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et une traduction du sens du verset, dans Sourate Nuh, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, wa Suwa', wa Yaruth, wa Ya'uq, wa Nasra. Et tout ça, c'était des divinités des salihis, c'était des gens pieux que le peuple de Nuh ont pris en tant que divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont hérité de ce polythéisme-là, en vouant leur adoration à travers les vertueux. Et ils ont adoré diverses statues et diverses idoles, comme Al-Lat, Al-Uzza, qu'on va voir dans la troisième qa'ida, dans la troisième règle, Inch'Allah. Et le Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, nous dit, par rapport aux commentaires de cette règle, il nous dit, يعني ما قصدنا أن الأصنام يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى لا ما قصدنا هذا نحن نعرف أن هذا كله لله عز وجل ولكن قصدنا ليشفع لنا ليقربونا إلى الله زلفا لأنهم أحسنوا منا فهم أصحاب دين ولهم طاعات وأعمال صالحات ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا لأنهم خير منا. Ensuite, le cheikh nous dit, cette règle ici signifie que les polythéistes visaient par cela, ils disaient, nous ne croyons pas que les idoles créent, qu'elles accordent la subsistance ou qu'elles gèrent les affaires en dehors d'Allah ou qu'elles ressuscitent les morts. Nous ne visons par cela, nous ne visons pas cela. Nous savons que tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous nous tournons vers elles pour qu'elles intercèdent pour nous et nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elles sont meilleures que nous, elles sont plus pieuses et elles accomplissent énormément de bonnes actions. C'est pour cela que nous les adorons et que nous les invoquons et que nous cherchons leur secours afin qu'elles nous rapprochent d'Allah et intercèdent pour nous car elles sont meilleures que nous et plus honorables que nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant cela, comme cela a été dans Sourate Az-Zumar, traduction du sens rapproché, ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, tandis que ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent, nous ne les adorons pas que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et cela signifie qu'ils disent, nous ne les adorons pas. Eux, Yahya, quand ils vont demander à ces personnes, ces habitants des tombes, eux, ils sont persuadés qu'ils n'adorent pas autre qu'Allah. Eux, ils le font seulement pour intercéder. Et Wallahi, c'est une chouba. Alors que ça, c'est la base du polythéisme dans lequel étaient les polythéistes au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le verset nous dit, ensuite Allah dit dans le verset, en vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. C'est-à-dire, Allah ici a qualifié ceux qui font cela comme étant de quoi ? Des menteurs et des mécréants. Donc ceux qui vont auprès des salihin et auprès des tombes, Sidi Fulan et Allan, pour leur demander l'intercession et d'intercéder auprès d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi ? Il les qualifie de grands, de menteurs et de mécréants. Cela montre que le fait de les adorer dans le but de rechercher un rapprochement ou une intercession relève de la mécréance. Même s'ils ne disent pas que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah créent ou pourvoient. Ça, c'est pas une condition, Yéhoi. Il n'est pas une condition dans cela de dire un tel, yani certes, je demande qu'il intercède auprès de moi, auprès d'Allah, mais je ne dis pas qu'il crée. Ou que c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui gère l'univers. Ça, c'est pas une condition, Yéhoi. Le seul fait qu'il va auprès d'un mort et qu'il demande et qu'il lui voue une adoration, ça fait de lui un mécréant. Ça fait de lui un polythéiste qui est tombé dans du polythéisme majeur. Donc s'il les invoque, cherche secours auprès d'eux, font des vœux pour eux ou leur offre des sacrifices dans le but de se rapprocher d'eux, en croyant qu'ils intercéderont pour eux auprès d'Allah, cela relève de la mécréance majeure que commettaient les premiers polythéistes. Il n'y a aucune différence entre eux et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque. C'est pourquoi Allah les a qualifiés de menteurs et de mécréants. C'est-à-dire qu'ils ont menti en prétendant qu'ils les rapprochaient d'Allah. Et ils ont commis de la mécréance majeure par cet acte. Et Allah dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Traduction du sens rapproché, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils ont donc reconnu que leurs divinités ne peuvent ni profiter ni nuire. Et malgré cela, ils affirment qu'elles intercèdent pour eux. Ils admettent donc cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Traduction du sens du verset, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Et Allah dit dans le Coran, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Traduction du sens du verset, et les injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur écouté. Et ce shirk qu'ils ont pratiqué a annulé la possibilité qu'ils bénéficient de l'intercession. C'est-à-dire que, à cause de cela, ils ne pourront pas bénéficier de l'intercession des intercesseurs le jour de la résurrection. Cela ne leur a apporté aucun bénéfice, mais plutôt leur a causé du tort. Et ce qui pourrait vraiment les aider, c'est se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester ferme dans le tawhid, d'adorer Allah seul et de renoncer à toute forme de shirk. Voilà ce qui pourrait leur être bénéfique. Qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala comme le sens de la ilaha illallah l'indique. Et comme on a dit, le sens de la ilaha illallah, c'est quoi, Yéhoi ? La ma'bouda bihaqin illallah. Et qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. C'est-à-dire qu'il voue l'adoration, l'invocation, la crainte, l'espoir, les sacrifices à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché, ni un djinn, ou quiconque d'autre. Et telle est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le polythéisme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ou accompli des actes qui démontrent cela. C'est-à-dire qu'ils ont voué l'adoration à autre que lui. Alors que le tawhid, la religion et l'islam consistent à vouer exclusivement l'adoration à Allah seul et ne pas la vouer à autre que lui. Même si l'on prétend que cette autre divinité, et cette fausse divinité n'a pas la capacité de créer ou de pourvoir. tant que quelqu'un voue un acte d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis du shirk et de la mécréance. Même s'il croit que cette chose adorée en dehors d'Allah ne crée pas et ne pourvoit pas. Et ça, c'est très important à comprendre, les ikhwa. Parce que c'est ça qui nous distingue de qui? Des mutakallimin, parmi Ahl Bid'a wa Dalal, les philosophes et autres, les gens du kalam. Parce qu'eux, ils ramènent la ilaha illallah à quoi? À tawhid al-rububiyya. C'est pour ça qu'ils vous disent que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? La khaliqa illallah. Ils disent la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de créateur si ce n'est qu'Allah. Et ça amène à quoi? À une croyance qui est corrompue et défectueuse. L'asaf. Parce qu'en disant ça, ils disent quoi, les croix? Ils disent que la base du conflit qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple, c'était dans le tawhid quoi? Le tawhid al-rububiyya, et pas le tawhid al-uluhiyya. Et cette parole, elle a des conséquences. Et parmi ces conséquences-là, c'est ce qu'on a dit précédemment. C'est que pour eux, celui qui dit « je crois en Allah », eh bien, ça suffit pour lui d'être considéré comme un croyant et un musulman. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque communauté un prophète pour leur dire quoi? Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et comme il a envoyé Shu'aib, Salih et les autres prophètes, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Et adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Donc le conflit qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, c'était dans le tawhid al-uluhiyya, dans le tawhid de la divinité, dans la divinité et le tawhid, dans l'adoration. Le cheikh nous dit ensuite, rahmatullahi alayhi al-imam ibn Baz, le fait d'invoquer autre qu'Allah, de chercher secours auprès d'autre qu'Allah, et de vouer certaines adorations à autre qu'Allah, fait de la personne un polythéiste, même si elle reconnaît qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, le gérant et autres. Et même si elle admet que ses divinités ne lui apportent ni profit et ni préjudice. Ya ikhwa wallahi, on se répète et on se répète. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux, ou même vous allez dans les pays musulmans, vous allez encore voir des gens qui ont ces ambiguïtés-là. Et ils sont très nombreux, ya ikhwa. C'est pour ça qu'on ne doit cesser d'appeler au tawhid. Et voilà, vous voyez, alhamdoulilah, la manière dont explique Cheikh Ibn Baz les choses, qu'elles sont compliquées. C'est très simple, les rois. C'est des paroles que tout le monde peut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut propager les paroles de Meshayir sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde a un téléphone, walillah alhamd. Même dans une qaria, tu peux trouver au fin fond, je ne sais pas, même en Amazonie, frère, ils ont Internet. Si toi tu propages maintenant un maqta' d'un savant qui parle du tawhid et que cette personne regarde cette vidéo, t'as été une cause pour que cette personne soit guidée. C'est pour ça qu'on doit tous propager le tawhid. Et selon nos connaissances et nos compétences et nos possibilités et nos capacités. C'est pas que la personne a étudié un an, elle va venir dans la mosquée, elle va commencer à enseigner. Là, alhamdoulilah, si tu possèdes une vidéo d'un savant qui parle de tawhid, propage-la. Et wallah, il se sera profitable. Bidnillah. Le cheikh nous dit ensuite, rahmatullah alayhi, cependant, ces personnes-là cherchent leur intercession ou souhaitent qu'elles la rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne les sauvera pas du polythéisme. Ainsi, celui qui adore al-Badawi ou Abdel Qadir al-Jilani ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une idole ou un djinn ou qui dit j'ai certes la conviction qu'il me rapproche d'Allah mais je ne crois pas qu'il crée ou pourvoie, il faut lui expliquer que cela relève du polythéisme majeur et que c'est cela la religion des polythéismes sur laquelle étaient ceux qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux-mêmes le disaient, et Allah dit, traduction du sens rapproché, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Regardez, c'est clair et explicite dans Sourate Zuma. C'est exactement ce qu'il disait. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Il est donc obligatoire pour lui de prendre garde à cette religion, c'est-à-dire la religion des polythéistes, en se repentant sincèrement et délaissant immédiatement tout acte de polythéisme et de shirk. Il doit également enseigner cela à ceux qui n'ont pas compris cette réalité parmi ses frères et les membres de sa famille. Il doit faire preuve de dynamisme dans la transmission de la da'wa et veiller à leur faire comprendre cela. Et leur faire comprendre que leur parole selon laquelle les divinités qu'ils adorent les rapprochent d'Allah, qu'ils ne croient pas qu'elles apportent profit ou préjudice, mais cherchent seulement leur intercession et leur rapprochement, cela relève en réalité du shirk majeur qui les fait sortir de l'islam. Ils ont plutôt cherché à se rapprocher d'Allah et à obtenir leur intercession. Ils auront voué en réalité l'adoration, et cela est en réalité du polythéisme majeur, et ceci est la fin de la parole de l'imam Ibn Baz, rahmatullah alayh. Et wallahi, ya ikhwan, vous pouvez aller chez n'importe quel kubouri, les adorateurs de tombes et autres, et wallahi, ils sont nombreux, ya ikhwan. Moi, je les ai déjà vus de mes propres yeux. Ils allaient vers les tombes en rampant. En rampant, ya ikhwan. Imaginez-vous. Et si vous allez chez le kubouri, vous allez voir qu'ils tiennent le même discours. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, ils vont vous dire, nous on n'adore pas Sidi Foulan. Nous on veut seulement qu'il nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prendre comme intermédiaire. Moi je suis un miskin. Il va te dire, moi je suis un miskin, je fais des péchés. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de moi? Et wallahi billahi alaykoum ya ikhwa. Y a-t-il une différence entre eux et ce que faisaient les mouchriquins au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Après ce que vous avez écouté, il y a une différence? Aucune différence, ya ikhwa. Ils sont sur la même religion que les mouchriquins qu'ils étaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est qu'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais est-ce qu'ils ont en réalité compris la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? La abadan. Ensuite, le cheikh nous dit, rahmatullahi alayhi, il nous dit, wa shafa'atu shafa'atan, shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun muthbatatun. C'est-à-dire qu'il y a deux intercessions. L'une est niée et l'une est confirmée. Et l'autre est confirmée. Il nous dit ensuite, فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. L'intercession niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Donc c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et ceci est indiqué dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset, « Ô les croyants, dépensez de ce que nous avons attribué » avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, traduction du sens rapproché du verset, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc, celui qui lit le Coran, il peut s'apercevoir que dans le Coran, le Coran mentionne qu'il y a une intercession qui est niée et une intercession qui est confirmée. Et ce qu'il nous incombe à nous, en tant que musulmans, c'est de nier l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié, et d'affirmer et de confirmer l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmée. Quant au fait d'affirmer ce qu'Allah a nié, ceci relève en réalité d'un égarement évident. Et quelle est l'intercession, ya ikhwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans le Coran? C'est comme l'a dit le Cheikh rahmatullah ali, c'est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Et ça maintenant, inshallah, on va expliquer c'est quoi. Si quelqu'un dit à une créature, quelle qu'elle soit, n'importe quelle créature, quel que soit son rang ou sa position, si elle lui dit maintenant, je te demande de me faire rentrer au paradis, je te demande de me préserver du feu de l'enfer, je te demande de me maintenir sur la foi, je te demande de me maintenir dans le droit chemin, je te demande de me donner une épouse pieuse, des enfants pieux, ou si maintenant il ne peut pas avoir d'enfants et il est stérile, il demande, oh Allah, oh un tel, je te demande de me donner des enfants. Tout cela fait partie de l'intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié dans le Coran. C'est-à-dire, c'est le fait de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire. Billahi alayki ya akhi al-karim. Est-ce que quelqu'un peut maintenant, Sidi Foulan ou Alman, peut te préserver du feu de l'enfer? Il peut te faire rentrer au paradis? Il peut te donner une épouse pieuse, une descendance pieuse? La abadania, je crois. C'est ça l'intercession qui est niée par le Coran al-Karim. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens du verset, « Ô les croyants, dépensez de ce que nous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. » Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit « ni intercession ». C'est-à-dire qu'elle est niée. Et le critère concernant cette intercession qu'Allah a nié dans le Coran, c'est celle qui est demandée auprès d'autres qu'Allah pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Donc on va donner un exemple, encore un exemple. Si une personne se tient devant un mausolée ou un tombeau ou une tombe et autre dit, oh Allah, je te demande, regardez, subhanallah, c'est l'habitude. Allah, qu'Allah nous préserve du shirk, quoi. Si maintenant il se tient devant ce tombeau et dit, oh Foulan, je te demande de m'accorder une épouse pieuse ou une descendance pieuse. Ou c'est une femme stérile, par exemple, qui demande à autre qu'Allah ou à Sidi Foulan, ô Sidi Foulan, accorde-moi des enfants. Ou qu'il demande à un wali, ou à un prophète, ou à un ange, ou à n'importe qui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela fait partie du shirk al-akbar et fait partie de l'intercession niée par le Coran al-Karim. Et pourquoi, ya ikhwa? Car ce sont des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Traduction du sens du verset. N'est-ce pas lui qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Et Cheikh Abdelrazzaq rapporte une faïda, ya ikhwa, sincèrement, elle est magnifique. Allah en berg. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Le Cheikh nous dit, حفظه الله تعالى par rapport à justement ceux qui demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani ces choses-là, une épouse pieuse ou un enfant, des enfants pieux, ou qui demandent le fait de les guider ou la droiture, ou autre que cela parmi les shirkiyat. Le shir nous dit, celui qui dit ces choses, où est-il par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas dans ce verset, c'est-à-dire Allah dit, traduction du sens rapproché, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Ici, il faut savoir que dans les versets qui ont été rapportés dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il t'interroge. Comme par exemple ici, Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. Tous les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'il t'interroge, il t'interroge et autres, à chaque fois Allah dit ensuite, ce qui vient après cela, il dit, qul, et dit ô Muhammad, afin qu'il transmette le message, car c'est un intermédiaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un intermédiaire pour transmettre le message. Donc Allah dit, et s'il t'interroge, ensuite dans le même verset il dit, réponds-leur alors, réponds-leur. S'il t'interroge, réponds-leur. S'il t'interroge, réponds-leur. Et on va donner des exemples. Par exemple, Allah dit dans Sourate Al-Baqara, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Traduction du sens du verset, il t'interroge sur les nouvelles lunes. Et allez, qu'est-ce qu'il dit Allah ensuite ? Dis, réponds-leur. Elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هِيَ أَذَى. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, réponds-leur, c'est une souillure. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ الْآيَةِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, et ils t'interrogent au sujet des orphelins, réponds-leur, leur faire du bien est meilleur en action. Sauf le premier verset que nous avons mentionné. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Quand il s'agit de l'invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit réponds-leur alors. Il dit directement, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Regardez, Yahya. Subhanallah al-Azim. Et le shir nous dit ensuite, Hafidhahullah, car le fait de s'orienter vers Allah est une orientation sans intermédiaire, dans laquelle il n'y a besoin aucun intermédiaire. Yani, où que tu te trouves dans le monde, si tu rencontres un besoin, ne cherche pas d'intermédiaire, mais dirige-toi directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lève tes mains, demande à Allah sans intermédiaire. Car il est le Seigneur des mondes. Il te voit, il te surveille, il soulage ton angoisse, dissipe ton souci et te pourvoit d'où tu ne t'y attends pas. Et les affaires sont entre les mains d'Allah. La royauté lui appartient et la création est sa création. Ensuite, le cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab nous dit, Rahmatullah alayhi, et l'intercession confirmée, c'est celle qu'Allah a confirmée dans le Coran. Yani, celle qu'Allah a confirmée dans le Coran est celle qui est demandée à Allah. Yani, c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit dans le Coran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Traduction du sens rapproché du verset, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc celui qui veut intercéder, qu'il le demande, il faut celui qui désire à ce qu'on intercède pour lui ou bien qui désire intercéder, il faut impérativement qu'il le demande à Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est entre ses mains. Si une personne veut que les anges ou les prophètes intercèdent pour lui, il doit demander cela à celui dont l'intercession est entre ses mains. Et l'intercession est entre les mains de qui ? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, comme on vient de le mentionner, traduction du verset, l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire qu'il la demande donc auprès d'Allah et il ne la demande pas auprès de ses créatures. Et il peut invoquer Allah, par exemple, en disant « Oh Allah, fais en sorte » ou « Oh Allah, compte-moi parmi ceux qui bénéficieront de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. » Il n'y a pas de mal à ce qu'il dise ça. Parce qu'Allah, à ce moment-là, il demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'intercession est entre ses mains. Mais il ne va pas chez le wali foulain, le sidi foulain ou le shir foulain, lui dit « Intercède pour moi auprès d'Allah ». Ça, c'est du shirk. Et donc, l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et elle ne peut avoir lieu que si Allah le permet. Que si Allah le permet à l'intercesseur et est satisfait de celui pour qui l'intercession est faite. Donc, on peut dire que l'intercession confirmée doit remplir deux conditions. La première, c'est idhnullahi li shafi', c'est-à-dire que la permission d'Allah, c'est-à-dire pour celui qui intercède. Et la deuxième, c'est ridahu anil mashfu'i lah, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et est satisfait de celui pour celui qui va bénéficier de l'intercession. Donc c'est ces deux conditions-là qui doivent être remplies. Et pour résumer la chose, bi'idhnillah, on va dire que l'intercession confirmée repose sur deux conditions. La première est qu'elle doit être faite avec la permission d'Allah, c'est-à-dire qu'il y a la permission d'Allah. Et la deuxième condition est que celui pour qui l'intercession est faite doit être parmi les gens du tawhid, c'est-à-dire les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour eux l'intercession. Et ce sont les pécheurs parmi les gens du tawhid. Et si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, alors l'intercession n'est pas valide et elle est fausse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, la preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni » Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ça donc, c'est la preuve pour la première condition. Et la preuve pour la deuxième condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala yani doit être satisfait de celui yani qui va bénéficier de l'intercession, c'est-à-dire qu'il doit être parmi ceux du tawhid, des gens du tawhid. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yashfa'una illa liman yartada. Traduction du sens du verset, il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent, c'est-à-dire les pécheurs parmi les gens du tawhid. Quant à celui qui est sur la mécréance et sur le shirk et qui meurt sur cela, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Elle ne le sauvera pas du feu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens du verset, « Les injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur. Écoutez. » Et je crois que j'ai fait une résumé de tout, comme ça, bi'idhnillah, ce sera encore une fois, ce sera compris. La première catégorie, c'est l'intercession donc confirmée. C'est celle qu'on demande à Allah. Et elle est valable que si elle remplit deux conditions. La première condition, c'est la permission d'Allah pour l'intercesseur. Et la deuxième condition, c'est la satisfaction d'Allah pour celui pour qui on intercède. C'est-à-dire qu'il fasse partie des gens du tawhid, les pécheurs parmi les gens du tawhid.
Ensuite, il y a l'intercession niée. C'est celle que le Coran a niée.
et celle qui est demandée à autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire, et cela relève du shirk al-akbar, c'est-à-dire du shirk majeur. Allahu alam wa hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.